Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 12 janvier 2015. Bienvenue à ce Grand Dialogue, premier Grand Dialogue de la semaine qui est consacré à cette nouvelle équipe de gouvernement. Voilà, Moussa Mara a laissé la place à Modibo Keïta. Modibo Keïta qui compte aujourd'hui parmi ses collaborateurs en tant que Premier ministre 29 contre 31 pour le gouvernement Mara. Alors pour en parler, nous avons quatre invités. D'abord, Gaussou Drabo, ancien ministre, journaliste également. Amadou Aya, du parti Yelema, parti de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Amadou Goïta, du parti socialiste. Et Étienne Fakaba Sissoko, qui est universitaire. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Diora est à la technique.
Studio Tamani.
Le Mali a donc un nouveau gouvernement depuis le samedi. Cette nouvelle équipe, dirigée par Modibo Keïta, se caractérise par le départ de 7 ministres, dont ceux de la Défense, des Finances et de la Communication. Le nouveau gouvernement compte donc 29 membres au lieu de 31 pour le gouvernement sortant. La signature du futur accord d'Alger sera donc la mission principale de ce gouvernement. Mais tout d'abord, nous allons voir ensemble le bilan du gouvernement Moussa Mara. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous Monsieur le ministre, pardon, pouvez-vous nous dire si nous pouvons aujourd'hui tracer un bilan du gouvernement Mara?
Oui, non, nous devons obligatoirement tracer un bilan. Bon, je crois que là, ce qui est vraiment à souligner, c'est que sur une question essentielle qui va revenir au nouveau Premier ministre, nous n'avons pas eu de résultats probants. Je parle du traitement de la question du nord du Mali, qui finalement conditionne pratiquement le règlement de toutes les affaires nationales, tant elle concentre l'attention des citoyens et la vigilance de l'opinion nationale. Donc, lorsque une question aussi primordiale et n'est pas tranché, on ne peut pas éviter de dire que le Premier ministre sortant n'a pas entièrement réussi dans la mission qui lui a été assignée. Quels que soient les efforts, quelle que soit la bonne volonté qu'il ait déployée pour cela.
Alors l'opposition est là. Amadou Goïta, vous êtes du Parti Socialiste, parti de l'opposition. Êtes-vous satisfait du bilan de Moussa Mara? Et quel peut être son bilan, en plus de ce que le ministre Drabo vient d'évoquer?
Ok, je vous remercie. Je salue les auditrices et les auditeurs de Studio Tamani. Bilan, je pense que c'est un bilan catastrophique. Comme vous le savez, les missions assignées à Premier Moussa Mara étaient d'abord la résolution, bon, je ne dirais pas une résolution rapide, mais la résolution de la crise du Nord, sécuriser les personnes, les biens, assurer le progrès social, et surtout une justice sociale. Malheureusement, pendant ces neuf mois, nous n'avions assisté qu'à des déclarations. Nous n'avions assisté qu'à des bonnes intentions. Lors de sa déclaration de politique générale, il a fait un catalogue de bonnes intentions. Malheureusement, le Malien souffre plus aujourd'hui. Le Mali n'est plus présent à Kidal. Le Mali n'est plus à 60 km de Gao, ni Tombouctou. Sur le plan économique, nous avons assisté à la suspension de l'appui budgétaire des partenaires techniques et financiers, notamment le FMI, la Banque mondiale, pour des affaires de, je ne dirais pas détournement, de malversations financières. Sur le plan de la justice, nous avions vu que l'impunité aujourd'hui s'est érigée en règle de gouvernance avec la libération de certains terroristes, dont le plus célèbre Wadi Sen. L'opposition avait demandé au lendemain de la visite de Mara à Kidal la démission du Premier ministre. Malheureusement, ça n'a pas été effectif. L'opposition avait déposé une motion de censure. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Et aujourd'hui, si le président a compris que cette équipe avait du plomb
dans les ailes,
je pense que aujourd'hui son départ, notre souhait est que augure une bonne perspective pour notre pays.
Alors, nous allons donc du berger à la bergère. Amadou Aya, vous êtes du parti du Premier ministre, le parti Yelema. Vous venez d'entendre ce que l'opposition vient de qualifier en termes de bilan. Êtes-vous d'accord avec ce que Amadou Goïta vient de dire?
Merci, M.
pour saluer tous les auditeurs et les auditeurs du studio Tamani. Ce n'est pas une nouveauté que l'opposition étale, c'est pas sur la place publique, les maux de la société dont eux-mêmes ils sont responsables. Ils le savent très bien. Parlant du bilan, effectivement, chaque mission doit être sanctionnée par un bilan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration étant une continuité, le Premier ministre Moussa Mara est arrivé à la tête, n'est-ce pas, du gouvernement dans un contexte socio-économique extrêmement difficile. Il est arrivé dans un contexte où l'appui budgétaire était suspendu. Et il était arrivé à un moment où...
L'appui budgétaire était suspendu
Oui, par le FMI, disons.
Le FMI, exactement. C'est durant la gestion de Moussa Mara.
Non, c'était presque suspendu quand ils arrivaient. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il est arrivé dans un contexte extrêmement difficile. Sur le plan, le front social, il y avait des difficultés. Mais malgré tout, il faut reconnaître que la déclaration de politique générale dont fait allusion à M. Koïta n'est pas une déclaration d'intention. À part aujourd'hui, même au niveau de la résolution de la crise du Nord, nous avons quand même une avancée significative. Mais c'est qu'il faut reconnaître.
Quelle avancée ?
Mais aujourd'hui, il y a quand même, on est arrivé à un préaccord, à un document de préaccord. On est arrivé.
Pensez-vous que ce préaccord-là soit à l'actif du Premier ministre Moussa Mara?
C'est à l'actif du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est en charge.
Sous l'impulsion d'un haut représentant.
Oui, sous l'impulsion du président de la République.
Qui est aujourd'hui Premier ministre.
Oui, exactement. Qui est pas sous l'impulsion du haut représentant, mais sous l'impulsion du président de la République. Mais le gouvernement qui est en charge les négociations. Ce qu'il ne faut pas oublier. Donc je pense que...
Y a-t-il un point positif parmi tout ce que vous avez dit c'est des points positifs que vous nous dites. En dehors de ça, est-ce que dans le secteur de l'administration, par exemple, il y a eu des avancées?
Oui, que ce soit dans l'administration publique. Vous savez quand même qu'il y a eu tout dernièrement une opération qui a été lancée pour, n'est-ce pas, détecter, n'est-ce pas, tous ces faux fonctionnaires que M. Koïta sait qu'ils ont eu à placer au niveau de l'administration malienne. Ça, je pense que cela va permettre d'assainir la gestion...
Le contrôle physique.
Le contrôle physique des agents, oui, ils le savent très bien.
Alors, Étienne Fakaba,
merci.
Alors, vous êtes universitaire.
D'abord, il faut dire que pour analyser le bilan de Moussa Mara, il faut voir les objectifs qu'on lui avait assignés quand il avait été nommé Premier ministre. D'abord, il y avait la question du Nord, bien entendu, qui était centrale, mais au-delà, il y avait les mesures d'accompagnement. La sécurité, par exemple, au niveau du pays, dans le pays de façon générale et au Nord en particulier, et également rétablir la confiance qui avait été rompue depuis 2012 entre les populations et les autorités. Donc ça, c'était un préalable. Mais quand vous prenez les secteurs également, un à un, vous voyez que vous allez voir que les avancées, en tout cas, sont très maigres. Et c'est aussi un mandat qui a été jalonné de scandales dans presque tous les domaines. Quand vous prenez le domaine de l'éducation dont je suis issu, l'organisation du bac, du DF et tout ça font que nous avons l'impression qu'il a échoué dans ce domaine-là. Vous prenez le domaine de la sécurité avec SADA, dont on ne comprend toujours pas pourquoi il a été renouvelé, parce que son bilan est le plus négatif de tous les membres du gouvernement.
En quoi ?
Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez au niveau de la police nationale les statistiques, on voit que les statistiques n'ont été aussi mauvais depuis 1989. De 89
dans
à
quel
maintenant,
secteur, par exemple, la criminalité,
la criminalité, la délinquance, et tout ce qui englobe la sécurité. Aujourd'hui n'a jamais été aussi une réalité aussi grande. Donc, ajouter à cela les histoires de corruption et autres font que aujourd'hui on peut qualifier le bilan de Moussa Mara de médiocre. Et au-delà de cela, il y a également les hommes. les hommes dont il s'est entouré qui ont posé énormément de problèmes. Et l'erreur justement qu'il a fait, c'est de vouloir, c'est de ne pas avoir imposé ces hommes dans l'équipe qu'il souhaitait mettre en place. Et donc,
il y avait aussi du répondant dans son entourage aussi.
Ça, c'est peut-être à lui qu'il faudra poser cette question, mais ce qui est sûr, en tout cas, les hommes à qui il a fait appel n'avaient pas également de répondant, parce que le résultat qui vient d'être obtenu par ce gouvernement-là n'est vraiment pas à la hauteur des attentes du Malien lambda.
Alors, monsieur le ministre, ancien ministre de la Communication, également directeur, ancien directeur de la MAP, du quotidien Essor. Alors, monsieur le ministre, est-ce que l'opposition ni les analystes ne font pas de cadeau à l'ancien Premier ministre Moussa Mara? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Moussa Mara, en tant que jeune Premier ministre, s'est brûlé les ailes?
Bien, je crois qu'on ne peut jamais souhaiter à un homme politique à cet âge de se brûler les ailes. On espère seulement que l'expérience qu'il a passée lui servira et qu'il aura, disons, le temps de s'asseoir, de faire le point de la situation et de reconnaître sincèrement ses limites et, disons, même les erreurs qu'il a commises. Je crois que tout le monde l'a souligné, il y a deux faits fondamentaux qui ont plombé tout son passage au gouvernement. C'est d'abord le désastre militaire que nous avons subi à Kidal, qui a complètement bouleversé, vous savez, les atouts de notre pays. Nous allions vers la normalité, nous avons reculé franchement vers la tragédie. Et nous avons perdu même en puissance de négociation sur un problème aussi délicat que le traitement du Nord. Et il y a eu cette suspension de l'aide du FMI. Et vous savez, lorsque le FMI suspend, bon, vous avez derrière tout le cortège de bailleurs de fonds qui également sont obligés de se maintenir dans une position prudente, même si beaucoup ont demandé au FMI d'être beaucoup moins rigide et de ne pas ajouter, disons, la difficulté au problème. Donc, rien qu'avec deux points négatifs qui ont autant plombé la durée de son mandat, il était difficile pour lui de sortir avec un bilan flatteur. Et c'est à lui peut-être de faire, il est le mieux placé certainement, pour voir en quoi il a laissé peut-être l'homme Mara supplanter le Premier ministre Mara. Et quelles sont peut-être ces erreurs de management des hommes et même de management des événements. Vous savez, on est dans une période extrêmement difficile. Je pense que n'importe lequel d'entre nous autour de cette table, si on le mettait à la tête du pays, saurait qu'il est dans une conjoncture parfaitement inédite et que les problèmes viennent de manière très brutale. Donc on se souhaite à chacun peut-être un peu de lucidité pour voir. Mais on peut recenser les erreurs sans forcément accabler celui qui les a commises.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat qui sera consacrée au tout nouveau gouvernement.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre page Facebook et également notre compte Twitter. Et n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani.org. Je vous rappelle que nous parlons aujourd'hui de remplacement de Moussa Mara, mais surtout de cette liste du nouveau gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Et pour en parler, nous avons comme invité Gaussou Drabo, ancien ministre, ancien directeur du quotidien Essor. Nous avons également un membre de l'opposition, Amadou Goïta, du Parti Socialiste, Étienne Fakaba Sissoko, qui est universitaire, et Amadou Aya, du Parti Yelema, parti du Premier ministre démissionnaire Moussa Mara. Alors, nous sommes donc à la deuxième partie du débat, le focus sur le nouveau gouvernement. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans ce nouveau gouvernement, Amadou Goïta?
Ce qui a changé, c'est d'abord le Premier ministre. Autant nous avions demandé la tête de l'ex-premier ministre Moussa Mara, autant nous saluons quand même l'arrivée de...
Vous êtes satisfait,
donc. Modibo Keïta. Nous assumons que c'est un choix de l'expérience, de la compétence et surtout de la sagesse pour ce que l'homme incarne aujourd'hui et pour ce qu'il a incarné. Mais la question fondamentale qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est une question d'homme ou une question de gouvernance? le plus important aujourd'hui. Non, nous pensons que le Premier ministre Modibo Keïta vient avec une volonté, un engagement sans faille. Il a rencontré l'opposition. D'ailleurs, c'était la première fois qu'un Premier ministre se déplace dans un siège de l'opposition pour échanger avec les responsables de l'opposition. Mais
c'est une opposition assez réceptive aussi.
Moins de deux ans plus tôt, Modibo Keïta est le troisième Premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ça veut dire qu'il y a une question, une crise quand même. Maintenant, voilà pourquoi nous estimons aujourd'hui que le plus important, c'est de changer la manière de gouverner. C'est aujourd'hui gouverner pour, à travers une vision. Et qu'on quitte les intentions et qu'on vienne maintenant à la pratique. Maintenant, par rapport au gouvernement dans son ensemble, notre souhait a été de réduire la taille de l'équipe gouvernementale. Parce que nous estimons qu'on a un pays en crise. Mara nous a laissé dans une crise financière et économique extrêmement difficile. Il était extrêmement important pour nous qu'on ait un gouvernement de taille de 20-25 membres. Bon, il y a eu deux de moins. Maintenant, nous allons juger le gouvernement à l'œuvre. Donnez-nous peut-être un délai de 90 jours. Mais prime abord quand même pour évaluer. Mais nous estimons quand même que le choix de Modibo Keïta permettra un peu de réconcilier les Maliens autour de l'essentiel. Pour nous, l'essentiel aujourd'hui, c'est la question du Nord. Contrairement à ce que mon ami Aya soutenait, nous n'avons pas avancé des iota par rapport au Nord, puisque le projet d'accord que nous avons n'est pas du tout accepté par l'ensemble des forces vives de la nation. Aujourd'hui, avec celui qui avait en charge ce dossier, qui devient Premier ministre, bon, nous pensons que peut-être c'est le retour de l'État, c'est le retour d'un homme qui a une excellence avérée de la gestion des affaires publiques, contrairement au Premier ministre sortant. Nous pensons que ça pourra faire avancer les choses.
Alors, Amadou Aya, vous êtes du parti Yelema, parti de Moussa Mara. En comparant ces deux gouvernements, le gouvernement de Moussa Mara et celui de Modibo Keïta, quelle différence est-ce que vous mettez en avant?
Ben, nous disons toujours que comparaison n'est pas raison, on a l'habitude de le dire. Je pense que, à l'entame de mes propos, je disais que l'administration est une continuité. C'est tout comme déjà le mandat présidentiel est une continuité. Et c'est pour cela que nous pensons que c'est au bout de 5 ans que nous allons pouvoir tirer réellement le bilan. Ceci étant dit, tout le monde l'a dit, que le Premier ministre Modibo Keïta est un homme de dossier, un grand commis de l'État, qui a une grande sagesse, vu son âge, parce que c'est extrêmement important chez nous en Afrique. Et nous avons salué sa nomination, mais aussi salué les hommes et les femmes à qui il a fait confiance. Donc nous ne pouvons pas préjuger d'autre chose que le bonheur pour le pays, parce que nous pensons et nous avons la ferme conviction que le plus important aujourd'hui, c'est le Mali. Et contrairement à l'opposition, on ne réclame pas la tête des gens. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'accompagner les hommes et les femmes qui ont la charge, n'est-ce pas, de diriger nos politiques publiques.
Alors Amadou Aya, permettez qu'on aille un peu en profondeur sur cette question. Autant le président Ibeka a fait des frustrés au sein de sa propre famille politique en ne nommant pas un membre de son parti comme Premier ministre, autant Moussa Mara aussi avait fait des frustrés. On se rappelle la démission de certains cadres au sein de ce parti-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le fait que Mara n'ait pas choisi des membres influents de son parti fut la cause de sa déconvenue?
Pas du tout, je n'ai pas connaissance de la démission d'un cadre du parti, malheureusement.
Ah, nous avons les preuves.
Non, mais je suis quand même secrétaire politique du parti, vous avez les preuves, nous avons un bureau de 63 membres qui est passé à 83 lors du dernier congrès, donc je n'ai pas connaissance de la démission des cadres du parti. Peut-être que la seule démission que vous pouvez parler, c'est au sorti du congrès de CAI. Monsieur Aliou, qui, ça, c'est quand même pas...
On ne cite pas de nom.
Hein. Non, ok, de toute façon, c'est pour vous dire tout simplement que la nomination de Moussa, de notre président à la primature, n'a pas fait de frustré au niveau du parti. Parce que nous avons comme vision le Mali. Nous avons toujours dit que ce qui nous importe, ce n'est pas les intérêts personnels, c'est le pays. Chacun doit se mettre au travail là où Dieu l'a placé.
Alors, Monsieur le ministre Gassou Drabo, le gouvernement est qualifié de gouvernement de combat. Êtes-vous d'accord avec cette idée et est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui des hommes qui sont nommés à la tête de ces départements?
Bon, la satisfaction doit venir du Premier ministre et non pas de moi. Donc, parce que c'est lui qui les mettra au travail et c'est lui qui va les évaluer. Moi, je voulais dire qu'il y a toujours ce problème de taille du gouvernement. Mais vous savez, il y a une certaine fatalité. Lorsque vous démarrez avec un certain chiffre, après, il est très difficile de compresser pour revenir, par exemple, à 20-25, comme l'a souhaité M. Koïta, simplement parce que vous avez déjà installé des habitudes de travail, vous avez instauré une logique de fonctionnement de l'appareil de l'État. Donc, si vous faites une cure d'amaigrissement trop forte, vous perturbez plus que vous ne soulagez. Mais je crois que autour de cette table, je pense que tout le monde salue également l'arrivée d'un homme d'expérience. Et je crois qu'un des signes, c'est par exemple le communiqué très chaleureux du RPM sur sa nomination et sur la formation du gouvernement. Et je crois que la chaleur du RPM vient du fait que dans le gouvernement, le Premier ministre a eu la courtoisie de mettre le secrétaire général du parti comme deuxième membre en importance de l'équipe gouvernementale et donc de donner...
D'avoir tenu compte du fait majoritaire.
Du fait majoritaire, même si lui est chef du gouvernement. Donc ce sont des gestes symboliques qui comptent également. Je crois que dans le gouvernement, ce qui est notable, c'est que, bon, au-delà de la modeste compression du nombre, c'est qu'il y a certaines logiques qui ont été rétablies. Vous savez, dans l'ancien gouvernement, il y avait des départements où le ministre était juste un super directeur. Il avait une structure sous la main et lorsqu'il s'ennuyait, il se mêlait des affaires de cette structure. Donc aujourd'hui, au moins, des ministres gèrent des domaines où il y a quelque chose à faire. Et il y a des synergies naturelles qui ont été reconstituées. Par exemple, l'administration territoriale et la décentralisation, la culture, l'artisanat et le tourisme, le commerce et l'industrie. Bon, ce sont des synergies qu'il est bon de reconstituer. Comme il était bon de reconstituer un ministère à part pour la sécurité. M. Koïta a eu un jugement, Fakaba, je m'excuse, a eu un jugement très sévère pour le ministre Sada. Donc j'espère que maintenant qu'il y aura un ministère entièrement dédié à la sécurité, l'attention indispensable qui doit être portée à ce secteur sera portée. Parce qu'effectivement, administration territoriale et sécurité, c'est deux domaines très lourds. Donc je pense que dans l'ensemble, il y a des signes encourageants maintenant qu'il faut que le nouveau Premier ministre conforte par son action.
Alors, Étienne Fakaba Sissoko,
sur le Premier ministre lui-même, cela ne fait l'objet d'aucun doute, c'est un homme d'expérience. Et le fait aujourd'hui qu'il ait été au représentant du chef de l'État lui confère un statut qui nous permet de dire qu'il a une maîtrise parfaite du dossier concernant les négociations. Mais moi, c'est plus ça qui m'inquiète, parce que pendant le temps qu'il a passé à cette fonction, il y a deux documents qui ont été proposés. Et tous les deux documents ont été rejetés et par la société civile et par la classe politique de façon générale. Donc, on va espérer que c'est une occasion pour lui aujourd'hui de rétablir tout ça. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que il avait été mis à un poste et avec une mission précise, conduire les négociations, aboutir à un accord. Et il n'a pas atteint cet objectif. Moi, à sa place, j'aurais attendu atteindre d'abord mon objectif avant de postuler ou avant d'accepter toute autre mission.
Et s'il n'avait pas la plénitude l'aurait
compris,
de cette charge.
On l'aurait compris. S'il y avait par exemple un accord aujourd'hui, nommé Premier ministre, on allait dire qu'il avait la charge de mettre en application justement le document d'accord. Mais comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut du pouvoir, toujours du pouvoir et encore du pouvoir.
Et s'il n'avait
d'autant
pas,
plus que depuis que nous on n'est pas nés, il est dans l'administration. La première fois qu'il a été ministre, moi j'étais pas encore né. Donc que des gens continuent comme ça dans l'administration et cela, son âge avancé, avec tous les problèmes que le Mali connaît, je me pose des questions. Et aujourd'hui, avec plus de 210 ans à la tête de l'État, le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, enfin, on a l'impression qu'on est cette fois-ci, au contraire de ATT-cratie, on est dans le papicratie aujourd'hui. Et nous, ça nous inquiète.
Alors, arrêtons-nous un peu sur certains postes clés, certains départements clés, comme le département de la Défense, aujourd'hui occupé par Tiamat Hubert Coulibaly, qui est quand même l'ombre de Soumaïla Boubé Maïga. Que dites-vous de ce changement?
Moi, j'ai pas compris cet état de fait. Je n'ai aucun doute sur les compétences de Tiamat. Et d'ailleurs, j'ai été de ceux-là qui ont applaudi lorsqu'on a vu beaucoup de jeunes arriver au gouvernement. Mais il faut reconnaître que les jeunes n'ont pas satisfait, n'ont pas joué pleinement le rôle qui était les siens. Et aujourd'hui...
Certains jeunes cités dans les questions de malversation.
Exactement. Notamment Camara et puis Ben Barka qui ont été débarqués. Mmh. Et ça, il faut le saluer par contre. Le fait qu'ils soient sortis du gouvernement pour leur permettre d'aller s'expliquer à la justice, espérant qu'ils ne seront
Vous
pas...
Vous pensez qu'il y aura des
mis,
poursuites
quelque part où ils seront... Comment ?
Vous pensez qu'il y aura des poursuites ?
On l'espère en tout cas. Et en tant que société civile, on fera tout pour que cela se fasse. Donc, au-delà de ce ministère aussi de la Défense, il y a le ministère de l'Économie. Je suis économiste, comprenez que ça m'interpelle. Et quelqu'un qui a servi avec Amadou Goïta, nous, on avait espéré ne plus voir...
Vous imaginez ou bien c'est...
Non. Avec Koïta, sous ATT. Il a été ministre des Mines sous ATT. Donc, nous, l'ère ATT, on avait espéré aujourd'hui tourner la page. Le Mali ne manque pas aujourd'hui de cadre valable, heureusement. Et donc, tourner la page supposait se débarrasser de tous ces hommes-là. Donc, quand nous revoyons les mêmes têtes revenir... connaissant le résultat qu'ils ont produit quand ils étaient aux affaires, ça continue de nous inquiéter. Et aujourd'hui, l'avantage que ce gouvernement a, c'est d'avoir été longtemps aux affaires et on va espérer qu'ils vont produire le résultat que l'on attend d'eux.
Alors, Amadou Goïta du Parti Socialiste, Parti de l'Opposition, aujourd'hui, nous avons vu l'arrivée de certains leaders de partis comme Dramane Dembélé et Choguel Kokala Maïga. Que dites-vous de ces entrées?
Alors, je dis, on va les juger à l'œuvre. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, c'est le changement de la pratique gouvernementale. Maintenant, contrairement à Étienne qui nous dit que c'est le règne d'ATT, il dit ATT a des bilans. J'en veux pour la maison de la presse, dans laquelle il se trouve aujourd'hui pour débattre, est un bilan du président Mouvement Touré. Et qu'il y a des hommes et des valeurs qui ont servi à Mouvement Touré, tels que le ministre Gassou Drabo, qui fut un des maires, ministre de la Communication. Donc le plus important c'est là, nous avons des bons cadres.
Vous mettez mal à l'aise Étienne.
Non, même pas. Non, c'est extrêmement important, parce que cette musique dire que tous ceux qui ont servi à TT. Maintenant parlons-en, je voudrais un jour inviter Étienne autour du bilan d'Amadou Touré pendant ces 10 ans.
Ça fera
maintenant on ne parle plus d'Amadou Touré, on parle de l'actualité.
On en a eu une dizaine.
On parle de l'actualité, il a pris le cas de Tiamat Hubert. Moi j'estime que Tiamat Hubert, quand il était ministre des Affaires étrangères, a été l'un des meilleurs ministres, qui est un poste de souveraineté. Je pense qu'aujourd'hui, le ministre de la Défense, il fera encore mieux. Dans l'arrivée des hommes politiques, vous savez, l'exécutif doit appartenir également aux hommes politiques. Parce que c'est eux qui sont le
porte-étendard
de la population. C'est extrêmement important. Non, c'est extrêmement important. Autant nous avions je ne dirais pas un technocrate, mais autant Modibo Keïta n'est d'aucun parti politique, autant les formations politiques qui ont décidé d'accompagner Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas parce qu'on est chef politique qu'on n'a pas la compétence. Non. Pas du tout. La politique n'est pas un métier, c'est une vision. Donc nous estimons aujourd'hui, même étant de l'opposition, nous pensons que ça peut être un gouvernement de combat. Ce gouvernement, nous allons l'évaluer. Notre souhait est que ce gouvernement nous apporte sécurité, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, on tue à cause d'une moto Jakarta. C'est l'avenir du Mali qu'on est en train de tuer chaque jour que Dieu fait. Que ce gouvernement nous apporte le progrès social. Que ce gouvernement nous apporte la justice sociale. Contrairement au précédent gouvernement, Modibo Keïta a l'avantage aujourd'hui de pouvoir parler et aux rebelles, parce qu'il fut facilitateur. Il n'était pas le chef de la délégation gouvernementale, il n'était que facilitateur. Aujourd'hui, il peut parler et aux rebelles, aux groupes armés. Ayant également l'exécutif, je pense que ça peut faire avancer
les choses. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la troisième et dernière partie de ce débat.
Une réaction.
Un avis.
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre compte Twitter. Nous sommes à la troisième partie du Grand Dialogue. Grand Dialogue aujourd'hui qui réfléchit sur cette nouvelle liste de gouvernement dirigée par Modibo Keïta. Et nous sommes à la troisième partie qui fait donc un focus sur les défis et les priorités de ce nouveau gouvernement. Mais tout juste d'entamer cette troisième partie, nous allons permettre à l'ancien ministre Gaussou Drabo, qui est parmi nos invités aujourd'hui, de nous répondre. Par rapport à cette question, Monsieur le Ministre, il y a cette question de génération qui se pose à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement au Mali. Certains veulent que place belle soit faite aux jeunes et d'autres à des hommes d'expérience, notamment plus âgés. Que pensez-vous de ces deux tendances?
Bien, c'est-à-dire sans vouloir chercher à tout prix le point d'équilibre, je pense qu'effectivement on est à un point où il faut faire émerger une nouvelle classe de leaders dans tous les domaines d'ailleurs. Mais il faut peut-être fournir à cette classe, disons, un minimum d'encadrement suffisant. Pour ne pas, ce que Omer disait, c'est que le pire, c'est d'apprendre par l'expérience, par le vécu. C'est la pire méthode pour apprendre. Parce que je crois qu'il faut quelques encadreurs qui servent de passeurs pour donner les raccourcis et permettre, disons, aux qualités des plus jeunes de s'exprimer. Et je crois que c'est ça qui a fait le problème des deux premiers ministres qui ont passé. Ils n'ont peut-être pas bénéficié de l'encadrement suffisant, ou bien certains n'ont pas écouté suffisamment les encadreurs pour, disons, éviter certaines erreurs. Mais nous sommes à une étape de l'évolution du Mali où, effectivement, l'émergence d'une nouvelle génération est une nécessité absolue. Et la prise de responsabilité par cette génération est également une nécessité absolue.
Alors, Monsieur le Ministre, il y a aussi cette question du genre. On a aujourd'hui 3 femmes au lieu de 5 sur l'ancien gouvernement. Quel est votre avis sur cette question du genre aussi qui est un peu en recul par rapport au gouvernement précédent?
Vous savez, lorsque je vois la question genre posée dans le domaine politique, il y a deux situations. Il y a la situation du gouvernement, il y a la situation de l'Assemblée nationale et des différents parlements. La situation du gouvernement, moi je suis toujours pour le respect du droit régalien de nommer qui on veut au gouvernement et maintenant d'assumer, disons, le dynamisme ou bien les erreurs de l'équipe qu'on nomme. Donc dans ce cas, la recherche de l'équilibre est toujours, disons, un exercice facultatif. Vous voyez, nos amis français, ils ont toujours des grandes déclarations, oui, 50-50, et ensuite, à la deuxième fournée, vous voyez le quota des femmes qui tombe de manière drastique. Donc il y a des cultures, il y a des pays qui culturellement promeuvent les femmes. Il y a d'autres où il y a beaucoup plus de réticence. Donc maintenant, dans les parlements, je pense qu'il faut tenter l'expérience des quotas. Parce que l'expérience de quotas, ce n'est pas donner des postes aux femmes, c'est mettre plus de femmes dans la compétition politique. Et l'autre jour, je regardais des statistiques sur un site. On a vu qu'en Amérique latine, je crois que Fagaba est d'accord avec moi, il y a eu une approche volontariste. Faire émerger les femmes. Et on a vu que du préjugé, on arrivait à la promotion. Des pays comme l'Équateur sont passés de 3% de femmes parlementaires à 38% par le fait des élections. Ça veut dire que lorsqu'on ouvre une porte, il y a des dynamismes qui s'expriment, il y a des compétences qui s'expriment. Bon, ouvrons la porte, voyons ce qui va se passer. Et à ce moment, on pourra tirer les conclusions. Mais aller avec des forces a priori contre les femmes, c'est pas très agréable comme démarche.
Alors, nous sommes donc de plein pied dans la troisième partie de ce débat qui parle des défis et des priorités de ce nouveau gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Alors, Amadou Goïta, ne pensez-vous pas qu'il y a trop d'attentes envers ce Premier ministre Modibo Keïta et son équipe?
Non, il n'y a pas trop d'attentes. Je pense que le président Ibrahim Boubacar Keïta, en arrivant au pouvoir, savait déjà que la situation était extrêmement difficile. Il avait pris la mesure de la situation. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons à l'équipe de Modibo Keïta, c'est d'abord ériger la bonne gouvernance en manière de gestion. Avoir des hommes et des femmes de qualité, la vision à elle, ça ne suffit pas. Il faut des hommes et des femmes de qualité qui ont le sens du patriotisme. Ramener la paix. La paix, pas au nom du Mali, mais la paix pour le Mali et pour les Maliens. Ça veut dire ne pas aller à un accord de paix qui risque de compromettre l'unité du pays et qui risquerait également de nous mettre dans une tragédie sans fin. Et relancer l'économie malienne. Je dis, ça fait 2 ans que les Maliens vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Malheureusement, ce n'est pas la fatalité, mais c'est le fait des hommes. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous attendons de l'équipe actuelle. Nous leur donnons le bénéfice du doute. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui animeront ce gouvernement, qui ont déjà fait leur preuve ailleurs. Et nous osons espérer que, avec la confiance portée en eux, et par le Premier ministre et par le Président de la République, que l'attente de la population est là. Puisque la confiance entre les gouvernants et gouvernés est en train de se briser. Fort heureusement, on est en train de redresser la barre. Je pense que cette mesure de redressement doit continuer dans tous les domaines.
Dans tous les domaines. Alors, cette nouvelle équipe a des priorités, Amadou Aya, notamment cet accord-là, cet accord d'Alger entre le gouvernement malien et les groupes armés. Pensez-vous que cette attente soit à la hauteur des hommes qu'on a nommés dans ce gouvernement?
Oui, vous savez, dans ce pays actuellement, tout est prioritaire. Et la priorité des priorités, certains diront que c'est la sécurité, d'autres diront que c'est le front social. Je pense que avec le préaccord qui est en train d'être partagé par l'ensemble de la classe politique, mais également avec tous les acteurs sociaux du pays, va permettre en tout cas à ce gouvernement d'avoir les observations de la nation, pour lui permettre de retourner à Alger afin de trouver un accord des Maliens cette fois-ci. Et au regard effectivement du préaccord, il y a beaucoup de questionnements et cela présage déjà des difficultés à la lecture de ce préaccord. Mais nous avons encore, disons, la ferme conviction que les hommes et les femmes qui sont de ce gouvernement ont également le souci du Mali et ont le souci de préserver l'intérêt supérieur du Mali. Nous pensons que ils trouveront, n'est-ce pas, les voies et moyens pour trouver un accord et parvenir.
Alors, le parti Yelema est-il toujours de la majorité présidentielle?
Ah, mais oui, nous sommes toujours de la majorité présidentielle.
Alors, Étienne Fakaba Sissoko, quels seront donc les programmes à envisager aujourd'hui? Parce qu'on imagine qu'après cette question de l'accord à Alger, il va falloir se tourner vers le développement. Quels pourront être les programmes de développement dirigés vers les différentes régions?
Avant même de parler du programme de développement, il y a la façon de faire. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas les équipes successives qui ont été mises en place qui sont en cause. C'est le président de la République lui-même. Donc si nous voulons espérer voir ce développement économique dont vous parlez, ce développement économique et social dont nous parlons, il s'agit pour le président de changer de cap, de montrer un autre visage. Parce que ce que nous avons vu depuis jusque-là n'est pas rassurant. Donc, il faut d'abord passer à cela. Deuxième chose, moi aujourd'hui, en tant qu'économiste, jeune, enseignant, ce sont ces 3 secteurs-là qui sont prioritaires aujourd'hui de mon point de vue. Parce que la question de l'emploi des jeunes, si on ne la traite pas, c'est la prochaine bombe à explosion qui nous attend. Donc, il faut impérativement voir dans quelle mesure on peut justement trouver des emplois décents pour les jeunes. Et cela, nous avons fait plusieurs propositions dans ce sens. La relance de l'économie également, on a prévu un budget de 350 milliards environ pour l'investissement productif, qui, à mon avis, n'est pas suffisant. Pour relancer l'économie. Il y a, je l'ai dit à plusieurs reprises, que les pays africains sont actuellement en train d'aller sur les marchés internationaux pour justement lancer des eurobonds pour pouvoir financer leurs économies. Et même au niveau national, nous pouvons lancer des obligations pour les projets de construction de logements sociaux, pour les projets de construction de routes, de barrages, etc. Pour les grands travaux, c'est des mécanismes qui marchent. Et aujourd'hui, nous devons et nous pouvons recourir à ces méthodes-là. Et au-delà de ça également, vous avez toujours la question de l'enseignement qu'il faudra résoudre impérativement. parce que nous ne pouvons pas continuer dans cet éternel recommencement qui consiste à avoir des années chevauchées, avoir des enseignants mal formés, des enseignants sous-payés, des infrastructures qui ne répondent pas aux normes. Donc il faut véritablement refonder notre système éducatif et voir dans quelle mesure il faudra améliorer de façon efficace pour la qualité de l'enseignement.
Alors, Monsieur le Ministre Gossou Drabo, aujourd'hui, il y a une question fondamentale auquel il va falloir se pencher, c'est la corruption. Quels pourront être les défis de ce gouvernement-là dans ce secteur, la lutte contre la corruption?
Bien, vous savez, pour moi, la lutte contre la corruption est un slogan un peu trop réducteur. Je préfère parler de moralisation
et de
moralisation et de gouvernance, parce que le tout se tient. Vous ne pouvez pas sortir un aspect et le traiter seul. Donc il y a effectivement un gros problème, et ce gros problème, c'est l'affaiblissement de l'État. Lorsque vous écoutez tout ce qu'on évoque, c'est qu'il y a l'absence d'un État ferme et surtout d'un État sécurable. Moi, je suis peut-être de la vieille école, mais je me dis que nous ne sommes pas dans un pays où les populations demandent l'aumône. Mais elles demandent parfois à l'État de leur montrer un chemin. Et dès que le chemin est ouvert, elle l'emprunte et elle se développe tout seul. Je crois que le meilleur exemple, c'est que lorsque il y a une route qui se crée quelque part, vous repassez 2 ans, 3 ans après, vous voyez que l'agglomération a complètement changé par ses propres forces. Donc il y a effectivement une présence d'un État sécurable et d'un État actif présent. Même lorsqu'on parle des problèmes d'insécurité, qu'on parle des problèmes de l'école, c'est parce qu'il y a des laissés-aller un peu partout qui favorise l'action, disons, des tricheurs, des comploteurs, des petits arrangeurs et tout cela. Mais lorsque l'État est là, ferme avec des principes, je crois qu'il y a beaucoup de situations qu'on peut réguler de manière progressive. Donc, au-delà de la corruption, je crois que c'est certainement la bonne gouvernance et la moralisation qu'il faut, sur lesquelles il faut vraiment mettre l'accent. Mmh. Et trouver des personnes qui portent effectivement ces valeurs pour qu'elles entraînent derrière elles des corporations et des professions.
Mmh. Alors, c'est sur ces mots de l'ancien ministre de la Communication, Gossou Drabo, que nous mettons fin à ce débat, un débat consacré à ce nouveau gouvernement dirigé par Modibo Keïta. Modibo Keïta, je vous rappelle, a remplacé Moussa Mara à la tête du gouvernement. Nous sommes donc à la fin de cette émission, une émission qui était divisée en 3 parties. Le bilan du gouvernement sortant, le focus sur le nouveau gouvernement, les priorités et voilà la ligne directrice de ce nouveau gouvernement. Nous étions donc avec Gossou Drabo, ancien ministre de la Communication, ancien directeur du quotidien Essor. Nous étions avec Amadou Goïta également, du Parti Socialiste, parti de l'opposition, Étienne Fakabassi-Soko, universitaire et un membre du parti du Premier ministre sortant. Moussa Mara était là également avec nous, Amadou Aya. Je rappelle que nous avons fait appel au RPM, malheureusement pour un problème de calendrier n'a pas pu effectuer le déplacement. Le représentant donc n'a pas pu être parmi nous. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadié Touré, Rokia Danyoko ont réalisé cette émission. Salim Douara était à la technique et Peting Diara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou Dmouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.